Le capital naturel est déjà devenu une classe d'actifs à part entière. C'est l'analyse que dressait David Bouchoucha, responsable actifs privés chez BNP Paribas Asset Management, au sujet des investissements dans les forêts. Mais que signifie le concept de forêt comme capital naturel? Est-il vraiment rassurant de se dire que la nature devient une classe d'actifs? Ce sont ces questions qui m'ont amené à rencontrer Maxence Foucault, spécialiste ESG, responsable des actifs privés BNP Paribas Private Asset Management, et Céline Clodon, directrice commerciale de l'International Woodland Company. Bonjour Céline, bonjour Maxence. En quoi consistent vos fonctions respectives?
Donc Céline Clodon, d'IWC, International Woodland Company. C'est une compagnie à la base danoise qui est spécialiste du capital naturel. La compagnie a été créée en 1991, donc on a plus de 30 ans d'expérience dans les classes d'actifs que l'on couvre. Et donc c'est notamment la forêt, l'agriculture et aussi la restauration d'écosystèmes. On a notre headquarter à Copenhague, au Danemark, mais on a aussi des bureaux aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, donc près des actifs en fait que l'on gère. Depuis toujours, en fait, on a vraiment eu un aspect durabilité, je dirais. C'est vraiment, ça fait partie de notre philosophie d'investissement. C'est très cher à nous et c'était une des raisons aussi pourquoi le partenariat avec BNP Paribas Asset Management fait beaucoup de sens. Puisque tout ce qu'on offre à nos clients, en fait, ce sont des investissements responsables, donc d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue ESG. Au jour d'aujourd'hui, on a 6 milliards de dollars de mandats institutionnels dans les forêts, l'agriculture ou la restauration d'écosystèmes.
Alors, je suis Maxence Foucault, je suis spécialiste ESG, responsable des actifs privés au sein de BNP PAM. Et plus précisément, je travaille au sein du Sustainability Center. Alors, c'est un centre d'expertise sur les sujets de durabilité au sein de BNP PAM. Et par exemple, c'est le Sustainability Center qui définit la stratégie, les politiques, les méthodologies en lien avec la durabilité. Et aujourd'hui, ce centre d'expertise regroupe plus de 35 experts et également c'est structuré pour soutenir le développement de notre activité Private Assets avec 10 experts spécialisés sur les sujets de durabilité pour les actifs privés.
Alors, c'est la BNP PAM qui a fait l'acquisition de l'International Woodland Company. Est-ce que vous pourriez nous présenter les contours du partenariat qui lie vos deux entités?
Effectivement, l'acquisition a eu lieu en fin d'année 2023 et on est très enthousiastes au sujet de cette acquisition. En fait, elle s'inscrit dans le prolongement de l'offre d'investissement durable de BNP Paribas Asset Management et également dans l'expansion de l'offre de la plateforme Private Assets que je mentionnais un petit peu plus tôt. Et tout ça nous permet de répondre à la demande de nos investisseurs qui démontrent un intérêt croissant pour cette classe d'actifs.
Et du côté d'IWC ou IWC, ce partenariat vraiment permet d'étendre notre réseau de distribution et aussi d'accroître les ressources au bénéfice de nos clients, que ce soit nos clients actuels ou futurs. Et donc pour IWC, vraiment la complémentarité des expertises. Et puis aussi, il y avait ce que j'appellerais un cultural fit entre les équipes qui a vraiment joué dans la décision pour le partenariat.
Je dis ça souvent de façon un petit peu illustrative, on en rigole avec Céline, c'est que c'est un peu l'image d'un arbre. C'est-à-dire que IWC va être le tronc et les racines qui sont les enracinés dans le sol et qui sont dans les forêts en train d'appliquer des pratiques ESG responsables. Et nous, on est plus les feuilles et les branches qui vont aller vers les clients institutionnels privés pour leur offrir des produits à plus grande échelle.
Merci. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Est-il vraiment rassurant de se dire que la nature devient une classe d'actifs?
Donc, je vais répondre que oui, au contraire. Je pense que c'est très bien d'avoir la nature comme une classe d'actifs ou plusieurs classes d'actifs, parce qu'en fait, ça va permettre de la protéger. Avant de parler de ça et peut-être de donner un peu plus de contexte, je veux juste dire que la nature est de plus en plus considérée aujourd'hui comme une ressource précieuse au même niveau que le capital humain ou le capital industriel. Donc l'enjeu, c'est vraiment de la préserver ou mieux de l'améliorer, faire fructifier ces ressources naturelles, et donc comme les forêts, les océans, les mangroves par exemple, et de ça la flore et la faune qui y vivent. Donc Quand on parle de capital naturel, en général, il y a deux types de capital naturel. Il y a le capital naturel vert et le capital naturel bleu. Bleu, ce sont les océans. Vert, c'est ce qui est forêt, agriculture et les autres écosystèmes terrestres. Donc, juste pour placer ça comme décor à ce à quoi on fait référence quand on parle de naturel, de capital naturel. Mais pour revenir à la question classe d'actifs, donc en fait, investir dans la nature, c'est une façon de protéger les forêts en privilégiant un savoir-faire et des conditions favorables et aussi un financement adéquat. Quand on parle de capital naturel, ce sont vraiment des investissements, la plupart institutionnels, pour gérer les forêts de manière durable. Le capital naturel, ce n'est pas aller exploiter une forêt et toutes ses ressources et repartir. C'est pas du tout ça. On parle de gestion de manière durable d'une forêt. Et donc, c'est tout le cycle de planter, faire grandir les arbres, les couper évidemment, mais replanter, etc., etc.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous évoquez la forêt en tant que capital naturel? Comment est-ce que vous le définiriez? Et est-ce que vous auriez des exemples d'autres types de capital naturel?
Au jour d'aujourd'hui, les terres productives ne représentent que 3% de la terre forestière mondiale. Et au contraire, ça donne un tiers du bois en tant que matière première. Donc, on peut voir que quand on parle plutôt de plantation, c'est un très grand enjeu au contraire, parce que c'est grâce à ces plantations qu'on va pouvoir protéger la forêt naturelle, du coup, que ça on veut conserver et ne pas exploiter.
Effectivement, et ce que j'aimerais rajouter, c'est que dans un contexte où les consommations de bois croissent, en fait, depuis les années 60, vous avez un doublement de la consommation de bois. Et avec toutes les considérations liées à la transition énergétique, avec toutes les considérations liées à la transition de l'économie vers des pratiques plus vertes, il y a de nombreux acteurs qui vont chercher à remplacer des matériaux plastiques ou des matériaux qui sont de forts émetteurs de gaz à effet de serre, comme le béton, l'acier, etc., par des matériaux renouvelables tels que le bois. Donc, il est nécessaire d'avoir des forêts commerciales qui puissent fournir du bois, donc des matériaux renouvelables à tous ces acteurs, pour qu'ils puissent mener leur transition, sans pour autant créer une pression supplémentaire pour les forêts naturelles et pour qu'elles soient préservées.
Alors, dans quelles zones géographiques se situent les forêts dans lesquelles vous investissez? Quels sont les types de bois, les types d'essence?
Et donc le portefeuille de nos clients aujourd'hui, c'est à peu près 60% aux États-Unis, 30% en Océanie, c'est l'Australie, la Nouvelle-Zélande, et puis le reste en Amérique latine et en Europe. Donc notre portefeuille, je dirais, il est un peu plus orienté vers les marchés matures par rapport à l'univers d'investissement. Le portefeuille de nos clients, c'est aussi à peu près une trentaine d'essences commerciales. Et après, il y a des essences non commerciales dans les parties non productives des propriétés. Les essences commerciales, c'est notamment des différents types de pins, d'eucalyptus, de sapin Douglas, et puis de différents feuillus comme le chêne, le cerisier par exemple. Les différentes espèces, essences, ont en fait traditionnellement des différents usages. Donc, il y en a qui vont servir pour la construction, il y en a qui vont plus servir pour la papeterie, etc., etc. Quand je parle de partie productive et de partie non productive, ouais, ça c'est quelque chose assez important de comprendre. C'est, ouais, quand on fait de la gestion durable d'une forêt, c'est pas tout est pas productif. En gros, entre 70 à 90% d'une propriété sera productive, et le 10 à 30% sera en fait conservé d'une manière ou une autre. Et donc ça c'est surtout pour la biodiversité, pour éviter l'érosion des sols, pour avoir plus de résilience au changement climatique, etc., etc.
Et donc, est-ce que les essences sont développées en fonction de celles qui étaient déjà existantes dans les zones géographiques que vous citez?
En général, oui, mais parfois, il y a des essences qui ont été importées d'autres parties du monde et on voit qu'elles grandissent très, très bien là et on va les utiliser. Mais ça fait référence aussi à ce qu'on peut ou ce qu'on ne peut pas faire quand on est certifié de faire de la gestion durable. Et par exemple, les essences complètement exotiques ne sont pas autorisées.
Alors, quels sont les critères ESG qui s'appliquent à ces investissements?
C'est vrai que côté BNP Paribas, notre objectif, c'est d'accompagner IWC dans sa gestion durable des forêts et en ligne avec les considérations extra-financières que nous privilégions au sein de BNP Paribas. Et du coup, on a défini avec IWC quels seraient les critères à appliquer pour ce fonds et notamment un des éléments concerne la certification FSC. Je ne sais pas si Céline, tu veux...
Ouais, donc FSC, c'est pour Forest Stewardship Council. C'est une des certifications qui est vraiment le plus reconnue dans le monde entier. Ça a été formé à la base par certaines NGOs. Et en fait, le fait d'avoir un certificat, donc c'est quelqu'un d'indépendant qui vient tous les ans faire un audit pour savoir si on suit bien un nombre de standards, que ce soit du point de vue environnemental ou aussi social. Donc ça, ce sont des associations, je le dirais comme ça, des certificats qui en fait sont formés par différentes parties. Mais FSC, par exemple, il y a trois chambres. Il y a une chambre économique où donc il y aura des représentants des investisseurs, des représentants de l'industrie. Il y a une chambre sociale. En général, c'est les gens qui soit travaillent dans l'industrie ou soit en fait vivent autour des forêts qu'on gère. Et puis il y a une chambre environnementale, donc avec un nombre de ONG. Donc par exemple, ça pourrait être de créer des corridors pour la biodiversité, donc pour être sûr que les animaux puissent traverser nos propriétés d'un bout à l'autre. Ça pourrait être une action complémentaire par rapport à ce que est requis par la certification. Ça pourrait être aussi recréer des marécages si ces marécages avaient été à un moment séchés, si ces marécages avaient été à un moment asséchés, drainés pour pouvoir planter des arbres. Au contraire, nous, on va les remettre en marécage, etc. Donc, il y a certaines actions comme ça qu'on appelle actions signature pour faire encore mieux que cette certification.
Quelle est la durée moyenne des investissements?
Donc, par rapport à la durée des investissements, la classe d'actifs a vraiment été créée dans les années 80 aux États-Unis. Et à la base, ils ont vraiment suivi, je dirais, le format private equity, donc avec des fonds qui étaient de 10 à 15 ans. Donc, c'est encore ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui pour la forêt. Mais on peut aussi investir sur le très, très long terme. Donc, il y a quelques fonds qui sont evergreen. Et puis, il y a aussi, quand on fait des mandats personnalisés, les investisseurs peuvent décider eux-mêmes de s'ils sont là pour 10 ans, 20 ans ou 50 ans. La plupart de nos clients à IWC, on les a depuis plus de décennies.
Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les rendements attendus de ces investissements?
Donc, les rendements varient en fonction des régions, évidemment, des essences, des débouchés pour les marchés, etc. Mais pour un portefeuille, ce que j'appellerais core diversifié, historiquement, nous sommes entre 6 et 10% net. En général, alors là, je fais une grosse brosse, mais en général, 75% du rendement vient en fait de la croissance biologique, ce qui est vraiment très spécifique à la classe d'actifs. Et après, le reste vient des changements des prix du bois et aussi changement des prix des terres, du foncier. Et aujourd'hui, de temps en temps, il y a des potentiels pour accroître le rendement avec justement la vente de carbon credit, crédit carbone. Ce qui est assez important à comprendre, c'est que le rendement, en fait, il est de côté. Il y a quelque chose qui va venir tous les ans, à peu près de 2 à 4%, en fait, qui est dû à la coupe des bois. Et puis, après, il y a une appréciation du capital.
Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de la taille du marché que ça représente?
Et justement, ça m'amène à parler de l'univers, parce qu'aujourd'hui, nous estimons que l'univers des investissements forestiers de qualité institutionnelle est d'environ 200 milliards de dollars. Et de ça, il y a seulement 100 à 120 milliards qui a été investi au jour d'aujourd'hui. Et cet univers est à peu près la moitié aux États-Unis. Donc, il y a trois régions, le sud des États-Unis, ce qu'on appelle le nord-est, et puis après, la côte pacifique. Il y a à peu près 20% en Océanie, 20% en Amérique latine, et le reste va être entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique.
Et enfin, qui sont vos investisseurs?
Traditionnellement, les fonds de pension et les compagnies d'assurance, notamment aux États-Unis, au Canada et dans le nord de l'Europe, ont investi dans les forêts. Mais ce cercle est en train de s'élargir, je dirais, géographiquement. Et de nouveaux acteurs regardent aujourd'hui la classe d'actifs, notamment des investisseurs institutionnels dans le, je dirais, le sud de l'Europe, mais aussi des entreprises et des gestionnaires de patrimoine qui se penchent vraiment vers cette classe d'actifs aujourd'hui.
Effectivement, et en fait, ça devient de plus en plus pertinent parce que les investisseurs qui historiquement cherchaient des rendements financiers, en fait, aujourd'hui, ils ont également des objectifs liés à des considérations extra-financières, donc ils veulent des bénéfices environnementaux. Et les actifs forestiers présentent des avantages énormes par rapport à ces considérations. Donc, concernant le rendement, alors la croissance biologique, c'est un moteur de rendement unique. C'est un excellent moyen de diversification du portefeuille. C'est également une protection contre l'inflation. Et je crois qu'au fil des mois, années passées, on a pu le constater encore et encore. Ce sont des rendements qui restent très, très attrayants par rapport à toutes les classes d'actifs qui peuvent faire partie de leur portefeuille. Et ce sont des investissements qui peuvent avoir des impacts positifs sur la nature ou l'empreinte carbone d'un portefeuille d'investissement. Et c'est un élément qui est devenu clé, qui est devenu très très central dans les décisions d'investissement de ce type de client. Et c'est exactement ce que nous proposons.
Le BNP Paribas Future Forest Fund a été conçu vraiment pour façonner les forêts de demain, reflétant une convergence des intérêts dont Maxence vient de parler, pour laquelle le changement climatique, la biodiversité et les objectifs financiers à long terme comptent pour les investisseurs. Aussi, il y a de plus en plus d'exigences du point de vue reporting ESG. Et donc, on a vraiment pris ça en compte et c'est vraiment le travail de BNP Paribas Asset Management, les équipes, surtout aussi du Sustainability Center et puis les équipes d'IWC qui sont venues avec cette stratégie d'investissement. C'est un produit financier où on a une cible de rendement de 7 à 9% net et pour investir dans un portefeuille diversifié dans les régions les plus matures, donc aux États-Unis, en Australie, Nouvelle-Zélande, et potentiellement aussi en Europe. C'est une gestion qui sera durable, évidemment, des forêts, mais aussi intégrale. Donc, on ne va pas seulement gérer la partie productive des forêts, mais on va aussi gérer tout ce qui est en jachère ou tout ce qui est non productif, et donc à faire des actions signature pour vraiment améliorer la biodiversité, améliorer la résilience climatique sur l'ensemble de la forêt.
Merci à vous, Céline et Maxence, pour votre participation à ce podcast. Enfin, et pour conclure, il est à noter que le BNP Paribas Future Forest Fund a été lancé fin novembre 2024. Il avait déjà réalisé un premier closing de 130 millions de dollars et vise désormais une taille cible de 500 millions de dollars.